Merci beaucoup Vincent pour cette belle présentation également et qui, eh bien effectivement, elle est en convergence avec celle de l'autre fille où on voit très bien que s'accompagnent ces pratiques sociales et interagissent les pratiques sociales et le droit. Et alors je suis contente que tu aies fini par cette idée-là parce que j'allais vous relancer tous les deux sur un terme que vous n'aviez pas utilisé, qui est celui de transnational. Alors tu viens d'expliquer, et je pense que finalement l'autre fille appuiera dans le même sens, sachant que le droit, tu l'as bien montré, est national. On va choisir un droit national ou l'autre. Donc si tu peux dire quelques mots, et j'ai aussi une question pour tous les deux. Est-ce que vous pourriez quand même dire quelques mots de vos méthodes de travail? Bon, tous les deux, vous travaillez depuis très longtemps sur les travaux que vous nous avez présentés. Alors, on a l'impression, Vincent, que... Alors, est-ce que c'est ça également un travail de sociologie? C'est finalement travailler auprès des personnes, mais aussi s'inspirer de plein de choses. Du coup, aussi relire le droit qui est en train de se faire. Voilà, multiplier les sources. Et est-ce que le droit, en parallèle... ne resterait que sur des sources juridiques ou essayer aussi de diversifier un petit peu pour mieux interpréter et mieux comprendre le droit. Hein, l'autre fille, peut-être.
Merci.
Et ensuite, on ouvrira...
D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. Bon, je crois qu'il y a eu une convergence entre nous. Moi, j'ai insisté plus sur les règles de droit et j'ai pris le prisme du droit privé. Mais je vais revenir... dans la discussion au droit public, puisque Vincent, je peux te tutoyer.
Oui.
Donc, puisque tu l'as évoqué dans le dans l'introduction, la Constitution, etc. C'est aussi très intéressant à voir. Donc, je vais revenir à la question. Donc, moi, j'ai pris le prisme du droit et le prisme de la sociologie, et on a vu que les deux convergent. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution en droit tunisien, en tout cas, et le point d'orgue, personnellement, je l'ai vu à travers la modification de 75 du droit de la nationalité, et ensuite, en 98, l'adoption du code de droit international privé, ce qui rejoint tes constats par rapport aux différentes périodes qui ont été évoquées. Donc, la question, les méthodes et la transnationalité, c'est un peu ça. Pour le concept de transnationalité, moi je crois au droit transnational sur le plan économique. D'ailleurs, j'ai fait une thèse sur l'arbitrage et l'ordre public transnational. Sur le plan économique, je ne dis pas que la notion d'État s'efface, mais la notion d'État est en train d'évoluer vers un concept de transnationalité. Aujourd'hui, on a un flux et un reflux des richesses à travers les frontières. On a l'apparition de principes transnationaux qui dépassent et qui intègre la notion de droit national. Tandis que sur le plan du statut personnel et sur le plan du droit à la fois politique, public et du droit de la famille, etc., c'est toujours la notion de nationalité au sens strict du terme. Donc autant je crois dans le concept de transnationalité si on est en train d'évoquer l'économie, autant je crois au nationalisme plutôt que si on évoque le droit public et le droit de la famille. Ce qui conduit parfois à un certain paradoxe, puisque de plus en plus, on parle d'ouverture des frontières aux marchandises, aux flux économiques, mais on voit qu'il y a plutôt une fermeture des frontières par rapport aux personnes. Et on le voit, d'ailleurs, en Europe, de manière très claire. De plus en plus, il y a un libéralisme économique, il y a des valeurs qui deviennent convergentes des différents systèmes. Il y a une transnationalité sur le plan économique, mais sur le plan personnel, il y a toujours les clivages et d'ailleurs les frontières qui existent et qui parfois se renforcent, où il y a des partis qui appellent encore plus à leur renforcement, montrent qu'il y a ce hiatus, je dirais, entre la transnationalité sur le plan économique et la nationalité sur le plan du droit des personnes et du droit politique. Deuxième question, les méthodes. Les méthodes, c'est vrai qu'il y a deux conceptions du droit. Il y a ceux qui conçoivent le droit à partir des textes et uniquement de la jurisprudence. Personnellement, mais ce n'est pas uniquement mon opinion, mais j'appartiens à une autre mouvance qui considère que le droit ne peut pas être en marge de la société. Et on est obligé, évidemment, de partir des textes, de partir de la jurisprudence, mais on ne peut pas comprendre les textes, comprendre leur action, si on n'a pas aussi une approche sociologique et une approche aussi historique. Donc ce sont des sciences qui se complètent. Évidemment, le prisme premier pour un juriste, c'est les textes, les sources du droit, qu'il doit enrichir avec une approche sociologique et historique, sinon je crois que son étude sera désincarnée par rapport à la réalité. Et il y a toute une doctrine en ce sens, et en particulier en France, il y avait le grand juriste, je crois que vous le connaissez, le doyen Carbonnier. Doyen Carbonnier qui a été le maître de cette école, l'école sociologique du droit, et j'appartiens, je dirais, à cette école. Donc, je ne vois pas le droit évoluer sans une approche sociologique. D'ailleurs, il y a eu des études très intéressantes qui ont été faites en Tunisie sur ce code de statut personnel en 1956 par rapport à la société tunisienne. Ce code a été en évolution par rapport à la société tunisienne, mais il a aussi pris en considération le fait que la société tunisienne était aussi pouvait accepter ces réformes, parce qu'un droit en marge des valeurs sociales est un droit qui sera nécessairement inefficace. Or, cette efficacité, c'est ce jeu, cette dialectique entre la règle de droit et la société qu'il va régir. Donc, à mon avis, mon approche, c'est de partir des textes et de la jurisprudence, mais aussi de voir son adaptation à la réalité sociologique et historique. Et j'estime que c'est complémentaire.
Oui, alors pour revenir aux méthodes, bon, j'avais fait un travail il y a plusieurs années sur c'était les Français héritiers d'immigration et de leur rapport à la nation d'origine. Donc c'est un travail que j'avais fait par entretien, par suivi, donc c'est un travail que j'ai ressuscité d'une certaine manière. Après, il y a tout un travail d'entretien qui ont été faits après la révolution tunisienne, et un travail d'observation, comme j'ai dit, un peu ambigu, parce que j'étais à la fois souvent invité, donc il suffisait de reprendre toute la documentation d'argumentaire de l'événement, comment il se présentait, quelle langue était parlée, comment il présentait l'invité, etc. Donc ça, c'est c'est pas de l'observation participante, mais bon, on pourrait dire observation participante. Gros travail, c'est aussi de... Alors là, c'est vrai qu'il faut jouer sur les deux langues, de tout ce qui est controverse publique. Par exemple, pour l'Algérie, c'était moins problématique. Pour la Tunisie, maintenant, beaucoup, beaucoup de débats sont en arabe. Mais par exemple, pour l'Algérie, autour des deux articles visant à réformer la Constitution et à empêcher donc les binationaux d'avoir des responsabilités, j'avais repris un gros, gros travail de polémique qui avait été fait dans la presse algérienne, mais aussi dans les relais algériens de France, qui est notamment ce qu'on appelle l'espace franco-algérien, qui est une association très nationaliste algérienne, qui est d'ailleurs très proche d'une députée actuelle, qui est animée d'ailleurs par des membres du Parti Socialiste, mais avec le drapeau algérien au-dessus de tout. Et là, ils avaient développé sur leur forum énormément de débats sur ce thème-là. Donc là, j'ai repris les débats, je les ai organisés, quand il y avait des pseudos, j'essayais de savoir qui c'était. Parfois, c'était des gens qui étaient en leur nom, donc il n'y avait pas de problème. Et puis aussi, oui... très important, parce qu'il ne faut quand même pas le nier, tout le travail d'équipe. Là, je dois reconnaître que l'axe que nous avons animé avec Claire Beaugrand au sein du programme OAFAO, dirigé par François Burga, sur les diasporas, fait que la présence de gens comme Déborah Pérez, comme Mathilde Zederman et Stéphanie Poissel, fait que, d'ailleurs, je les ai cités, il faudrait que je les cite encore plus, elles font un travail remarquable sur ces questions-là. Les deux articles que je vous invite à lire de Stéphanie Poissel sur les usages de la langue chez le nouveau personnel politique tunisien sont remarquables, qui montrent qu'on n'est plus du tout dans francophone. Aujourd'hui, c'est des enfants de l'immigration qui apportent le français, et c'est les Tunisiens francophones qui se s'arc-boutent au dialecte tunisien il y a un jeu à la Bourdieu, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le français, la langue distinctive pour se dire on est l'élite. C'est aussi le dialecte, parfois, et qui permet de disqualifier ceux qui le possèdent moins. Et par contre, les enfants, notamment, pour être encore plus clair, les enfants d'islamistes qui rentrent de Londres et qui parlent l'anglais, le français, le bel anglais, en plus, d'Oxford et le français, c'est clair qu'il disqualifie un peu, du coup, ces langues qui étaient des langues d'élite. Parler l'anglais en Tunisie, il fallait être quand même membre de l'élite, et ce n'est pas du tout le cas d'autres pays. Parler le français aussi. Aujourd'hui, ben, vous avez des bases plus simples de la Sorbonne qui arrivent, qui sont enfants de l'immigration ou enfants de réfugiés, qui parlent, bien sûr, parfaitement l'anglais et le français, et souvent un peu le dialecte tunisien. Donc ce jeu-là, c'est tout un travail de groupe qui a été fait, et j'espère qu'il se poursuivra. Pour deux d'entre eux, c'est un travail de thèse. Pour une, j'espère que ce sera un travail de chercheur. Voilà. Donc, mais en tout cas, beaucoup aussi de... Après la Révolution, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pratiquement invité par tous les collectifs, y compris les anciens collectifs du régime, qui se sont reconstitués sous des étiquettes nouvelles. Il faut savoir qu'en France, il y a quelque chose, c'est que la défense des travailleurs sans papier du côté tunisien a été menée beaucoup par les réseaux d'anciens régimes. Énormément. D'ailleurs, la principale avocate des sans-papiers tunisiens, les fameux 20 000 qui sont arrivés en France, c'est l'avocate de Leïla Ben Ali, qui était à la tête du comité. Donc là aussi, c'est un travail de proximité, de discussion avec eux. Ce qui est assez surprenant, hein, la reconversion des anciens du régime. C'est aussi le fait de culpabiliser la France. Hein, il y a un jeu aussi politique. Vous voyez, non seulement vous faites la révolution, mais vous déversez 20 000 pertes. Donc là, il y a eu aussi tous ces réseaux-là que j'ai pu voir. Sur le transnationalisme, il faut quand même... Attention, je nuance. Quand on prend, si on fait une bibliographie au sens d'un universitaire, les gens qui ont travaillé sur le transnationalisme disent presque la même chose qu'on dit ici. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont parler de transnationalisme pour en fait montrer l'articulation de plusieurs types d'identification nationale. Et peu croient à la dépassement des identités nationales. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faut être juste dans le jugement, c'est qu'à mon avis, leur concept n'est pas bon, parce que transnationalisme, c'est trop vague. Mais il faut avouer que c'est quand même de leurs articles, je pense aux travaux de Riva Castoriano, quand elle parle de transnationalisme, Riva, elle inclut déjà le fait d'avoir deux polarités nationales, les Français d'origine turque. Et aujourd'hui, encore plus, hein, aujourd'hui, il y a une réactivation aujourd'hui de l'identité turque diasporique, je peux vous dire, sur mon Facebook, je le vois vivre, hein, autour d'Erdogan et des réseaux Erdogan, où on met le drapeau turc, vous avez fait le coup d'État, c'est de votre faute, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas croire, on pensait que ça avait disparu. Bon. Et donc là, je pense que déjà, des gens comme Riva ou d'autres auteurs français ou étrangers qui parlaient de transnationalisme, pour beaucoup, ils disaient déjà ce qu'on dit maintenant. Disons, c'est plutôt eux qui disaient avant nous. Et donc, en fait, ils parlaient de transnationalisme, pour moi, qui est un terme maladroit, pour désigner, en fait, de plus en plus comment les identifications se produisent en direction des États-nations et non pas dans le dépassement des États-nations. Hein, alors, exception, mais ce n'est pas une exception. En France, à la suite de la révolution tunisienne, c'est constitué de ce que j'appellerais aussi la réouverture d'un espace arabe du politique en diaspora. Avec la révolution tunisienne, on a recommencé à parler de la Syrie, de l'Égypte, et de la Palestine, bien sûr. Ça, la Palestine, c'est le continuum, je veux dire ça. Ça ne s'est jamais arrêté, si je peux dire, depuis les luttes des années 60-70. Et ce qui est très intéressant, c'est que la révolution tunisienne et égyptienne, j'oublie, hein, parce qu'il faut parler de l'Égypte, ont relancé cet espace arabe du politique, mais plus par des anciens gauchistes barbus, mais par des très jeunes. C'est-à-dire que des gens de... Je suis déjà trop vieux. Mais je veux dire, des gens de la génération de notre ami... sont aujourd'hui à la tête aussi de collectifs où on va discuter si dictature ou pas dictature, la révolution syrienne qui a énormément clivé en France chez les Français d'origine arabe, entre ceux qui pensent que c'est un complot américano-sioniste et ceux qui pensent que c'est une vraie révolution. Bon. Et là, il y a la renaissance d'un espace du politique à Paris, plus à Paris qu'en province, malheureusement, mais aussi en province, qui recontinue à exister. La crise syrienne, elle fait vibrer. Hein, il y a une controverse autour de la crise syrienne. Les jeunes ont un discours sur la crise syrienne. C'est pas seulement des jeunes d'origine arabe, hein, des jeunes français d'origine arabe, mais il y a quelque chose, vous voyez. Sur l'Égypte, au moment du coup d'État de Sissi, il y a eu énormément de discussions. Est-ce que c'est un coup d'État, hein. Et c'était pas des Égyptiens, c'était aussi des Tunisiens, des Français d'origine algérienne, des Français d'origine marocaine. Donc on voit bien qu'il y a la renaissance d'un espace arabe du politique en diaspora qui avait existé dans les années 70, porté plutôt par les étudiants de gauche et d'extrême gauche dans leur diversité, hein, parce que l'extrême gauche, ça allait des maoïstes aux trotskistes, aux bourguibiens critiques, etc. Et là, on revoit naître quelque chose qui relève de cet espace arabe de la diaspora, de la discussion, où des jeunes... On se réapproprie la langue arabe aussi. Il faut voir qu'aujourd'hui, le nombre de jeunes Français d'origine maghrébine qui s'inscrivent à la Sorbonne, s'inscrivent à la Langzo, s'inscrivent en fac et se réapproprient cette langue pour avoir accès aussi au débat en langue arabe. Donc là, il y a un phénomène, je pense, que je n'ai pas la capacité d'étudier, mais qui méritait d'être étudié, c'est la renaissance d'un espace arabe du politique, la question syrienne, qui est quand même... Alors, elle mobilise peu dans l'espace public, c'est vrai, mais elle mobilise énormément en débat, actuellement. Les réseaux d'entraide à la Syrie, les réseaux humanitaires à la Syrie, voilà, énormément.
Est-ce que vous avez des réactions, des questions, tout ce qui a été dit, Jean-Robert?
Moi, je pense que, effectivement, je ne crois pas beaucoup à l'approche transnationale, c'est assez fumeux. Par contre, je crois qu'il y a une dimension internationale qui a pesé énormément sur le développement de la multinationalité, c'est l'invention de l'Europe et la construction de ses frontières méditerranéennes. Et ça a été des pratiques de binationalité dans des modes différents, et finalement assez convergents en Tunisie, Algérie, Maroc, ont quand même été des réponses à la gestion des frontières, à la gestion de l'espace frontalier. C'est-à-dire que les individus ont réinventé ou inventé quelque chose qui était illégitime ou pas. Enfin, moi, je me souviens très bien, il y a 30 ans, il ne fallait pas s'annoncer binational, il ne fallait pas sortir ou rentrer avec un passeport français en Algérie, par exemple. Bon, et tout ça a changé parce que il y a une gestion par les individus de cet espace frontalier mixte, je ne sais pas comment, enfin, plurinational, qui est dénié par l'invention de l'Europe. Et il y a eu une réponse vraiment très très forte des individus, je trouve, à cet égard. Et dans des modes différents, donc d'un pays à l'autre. Alors chacun a son histoire, par exemple, pour la Tunisie, quand Riyad Ben Achour s'était occupé de la commission de réforme, il est venu nous l'expliquer après, et il nous avait dit, en 2 ans, on a toujours parlé en arabe dans cette commission de réforme. Bon, en Algérie, il y a eu d'autres problèmes. Les commissions de réforme qui ont eu lieu au moment du début de la présidence Bouteflika, au contraire, les gens nous disaient, pour la commission de réforme culturelle, c'est 80% en français. Même pour la justice, on est à 40-50% en français, alors que ça devait être intégralement en arabe. C'est-à-dire qu'en Algérie, je pense que la question de binationalité s'est superposée à un problème interne très violent de biculturalité. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence permanente entre les langues, bon, qui est beaucoup moins frappante en Tunisie, je crois. Voilà. En tout cas, pour la binationalité, je crois que c'est vraiment, au niveau chronologique, le développement de la binationalité est presque symétrique de celui de l'invention des frontières méditerranéennes de l'Europe et des empêchements à la circulation des personnes. Donc il y a bien transnationalité sur le plan économique, mais rien du tout. Au contraire, une fermeture qui ne peut être dépassée que par les bricolages juridiques que permet la binationalité. Même si les gens, quand on discute avec les gens, ils disent « Ah, moi je suis algérien, ou je suis tunisien, mais j'ai le passeport violé. » C'est-à-dire, être européen, c'est quand même pas grave que d'être français, mais ça permet le dépassement de la fermeture des frontières.
Oui, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a aussi, il y a bien sûr développement de la double nationalité qui accompagne le développement des obstacles. Et la réforme de 1975 en Tunisie, ouais. Également, il faut rappeler le contexte. Justement, à partir de ce moment-là, il devient plus difficile aux Tunisiens de faire les allers-retours. Il s'installe davantage en France et là la Tunisie fait un choix pragmatique finalement pour les conserver dans la nation. Il faut autoriser la double nationalité.
Mais le regroupement familial est aussi un incitateur. Ouais.
Bon, je crois qu'il y a aussi un aspect. On n'a pas focalisé sur cet aspect, mais je crois qu'il explique beaucoup de choses. C'est l'aspect historique. C'est l'aspect historique. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie étaient colonisés par la France. Et en particulier l'Algérie, où la colonisation était particulièrement forte. Et où la binationalité a été utilisée par la France à cette époque comme un moyen de perdurer la colonisation. Par exemple, en Tunisie, la lutte contre la colonisation s'est faite en parallèle avec une lutte contre la binationalité.
Après l'indépendance.
Non, je parle avant l'indépendance.
Non, ça
ne
pouvait pas exister.
Non, ça, si tu non, il y avait, non, il y avait des lois françaises.
En Tunisie, oui.
En Tunisie, oui.
Naturalisation, c'était.
La naturalisation, pleine. Etc. Et donc, il y avait un combat pour. Oui. Un combat politique qui se cachait derrière ces notions de nationalité. Et ce qui expliquait que, au moment de l'indépendance, évidemment, on ne pouvait pas. On est le fruit de son histoire. Et dans l'histoire, cette notion de binationalité a été rattachée souvent à une notion de trahison de la nation. C'est un peu la situation qui s'est passée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez quelqu'un qui devient allemand dans cette période de guerre. Et il y a eu des problèmes. C'est des gens qui vont être considérés comme traîtres par la suite. Ce qui explique que, d'abord, en Algérie, ça s'est ressenti encore plus fort, parce que l'indépendance tunisienne s'est faite de manière... Évidemment, il y a eu une guerre, il y a eu une résistance, mais le génie peut-être de Bourguiba, c'est qu'il a pu à la fois aller vers l'indépendance, tout en gardant des liens, tout en ne cassant pas avec la langue française, etc. Donc, il y a eu cette évolution, je ne dis pas paisible, mais cette évolution où il n'y a pas eu cette cassure totale entre les deux pays.
Et on voit bien dans l'immigration, ça c'est une échelle que vous connaissez, c'est-à-dire dans les familles d'immigration, pendant très longtemps, le fait d'être français, c'était quand même une trahison aussi.
Voilà.
Donc, c'est-à-dire que c'était... En fait, c'était des familles qui vivaient ici, leurs enfants étaient ici.
Des générations.
Ah ouais, non, mais moi je l'ai connu chez mes copains et mes copines quand j'étais enfant. Le père n'aurait jamais pris la nationalité française. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui ont poussé leurs parents un peu. Non, et chez les enfants, ils l'ont admis. Parce qu'il y a aussi un fait qu'on ne dit pas, c'est un peu le fait de la domination. C'est que la nationalité française, elle vous ouvre toutes les portes.
Oui, oui, oui.
Donc le fait de la domination, et ça je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas l'oublier, au-delà des identifications affectives, affectuelles, émotionnelles, aujourd'hui, avoir un passeport français, tu arrives dans ton pays d'origine avec un passeport français, tu te dis, tu vois, il y a aussi un peu un effet de domination. C'est-à-dire qu'il ne faut, pas nier ces effets de domination qui fait qu'un passeport français, vous n'avez pas de problème pour aller en Grande-Bretagne, pour le restant, pour les États-Unis, ça va encore pour quelques temps, vous pouvez aller en Israël, vous pouvez aller partout. Avec un passeport tunisien, vous pouvez aller nulle part. Donc, je veux dire par là que cet effet de domination, il est réapproprié aussi par les individus. Ouais. Ouais, je trouve que c'est aussi ça qui explique la banalisation du passeport français. Il y a aussi les gens sont pleinement français, mais il y a aussi un aspect... je prends aussi la nationalité du dominant, ça c'est clair.
Il y a une notion pragmatique, c'est-à-dire pourquoi ne vais-je pas jouir de certains droits. Alors qu'au début, les années 60 et les années 70, il y avait... Toujours, je ne dis pas un ressentiment anti-français, non, pas du tout, mais... il y avait un ressentiment contre la colonisation et un ressentiment contre ceux qui avaient la double nationalité à cette époque-là, parce que pour les Tunisiens, pour les Algériens, c'était des traîtres. C'est comme exactement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. En France, pour ceux qui sont devenus allemands.
Nous, ils n'étaient pas besoin d'être allemands pour collaborer.
Il y avait des Tunisiens qui collaboraient. Mais ceux
malheureusement, ils sont restés français pour collaborer.
Mais ceux qui prennent la nationalité.
J'aurais préféré qu'ils soient allemands.
Voilà, le déclarer.
Sans les dégager après.
Voilà, le déclarer clairement. Donc c'était ça. C'était un peu le poids de l'histoire. Mais avec le temps, maintenant, ce n'est plus un enjeu de colonisation.
Ouais,
mais je constate.
Un peu
que,
quand même. Hein.
Un peu. Je constate que pour les Algériens, c'est encore. Un peu plus... voilà. Et je constate que même pour les Français, ce n'est pas encore dépassé. Et d'ailleurs, avec l'actualité, je dirais. Avec l'actualité, il y a eu la visite de Macron en Algérie, qui a parlé de crimes contre l'humanité pour la colonisation. Et voilà qu'il y a vraiment tout un débat. En France, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont pour la colonisation? Est-ce qu'ils ne considèrent pas qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité? Donc il y a toujours une sensibilité très forte à analyser. Le fait qu'on demande à Chirac de demander des excuses pour la colonisation, ce qui n'a pas été fait pour les Algériens, mais a été fait pour, par exemple,
le Veldiv,
le Veldiv pendant une période, montre qu'il y a toujours cette sensibilité qui est toujours présente. Donc, je crois que l'élément historique ne doit pas être négligé dans cette approche. Et que l'évolution s'explique par beaucoup de choses, par une évolution économique, par une évolution des régimes. Il y avait Ben Ali, il y a après la révolution, mais ça s'explique aussi parce que le temps apaise les blessures. Donc, en 2017, voilà, il y a une génération qui est passée, qui voit les choses autrement. Il y a une différence entre quelqu'un auquel vous demandez de devenir français, qui a son frère, qui a son cousin, ou qui a un ami qui a été fusillé, et quelqu'un de la deuxième ou de la troisième génération qui n'a plus ce problème. Pour lui, la question devient une question pragmatique. pour pouvoir jouir d'un passeport, etc. Mais pour l'autre, c'est une question qu'il ressent dans sa chair. Il y a un combat entre les deux nations. C'est un peu, il faut faire le parallèle avec Allemagne et France. Qui imagine en 1940-45 l'Europe d'aujourd'hui où il y a la chancelière allemande et le président français qui collaborent ensemble et qui fixent la politique de l'Europe? En
1945.
Ah,
il y avait
Béatrice. Voilà. Donc voilà un peu l'aspect historique. Je crois que on aurait gagné aussi à avoir avec le juriste, avec le sociologue, un historien qui peut-être nous expliquera la variation selon l'histoire et selon qu'on s'éloigne de ce passé. Mais je considère que c'est une question toujours sensible. La preuve, le débat qui existe aujourd'hui en France. Et on est en train de le suivre. Avant de venir, j'étais à l'hôtel et j'ai regardé une interview de votre ministre de l'Éducation nationale, qui est d'origine, je crois, algérienne.
Algéro-marocaine.
Algéro-marocaine.
Les deux.
Et on lui a posé...
Il y a trois Marocaines.
Voilà. Et on lui a posé la question, que pensez-vous du fait de la déclaration de Macron qui disait que la colonisation française est un crime contre l'humanité?
Et alors ?
Elle a esquivé la réponse.
Parce qu'elle est socialiste.
Elle a esquivé la réponse en disant il ne fallait pas y avoir de colonisation, mais est-ce que c'était un crime ou non contre l'humanité ? Ce n'est pas intéressant maintenant de... Donc voilà un peu le débat qui existe toujours en France. L'histoire, je crois, qu'elle laisse des traces.
Patrice.
Merci pour vos exposés, c'était très intéressant. Donc, Monsieur Chedi, j'ai deux questions. La première question, puisque vous avez parlé de la loi nationale commune des époux, qui notamment va appliquer la question du lien avec le domicile commun. Alors, quid de la situation, par exemple, d'un père qui aurait immigré en France et dont la femme rentrerait par regroupement national et qui serait en France depuis 20-25 ans? En termes donc de droit de famille et de régime successoral, qu'est-ce qui s'applique là? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le cadre du droit français et jusqu'où s'étend ce régime-là, c'est-à-dire bien en France et bien là-bas en Tunisie? Ça, c'est une première question. La deuxième question, comment s'acquiert, parce que je ne suis pas bien au courant, la nationalité tunisienne chez vous? Et là aussi, quels effets ça produit, la nationalité? Pour les étrangers, bien entendu. Et puis, dernière petite question, mais comme vous l'avez dit, on avait eu l'occasion d'échanger là-dessus, Vincent, rapidement. Quel a été le rôle aussi des institutions au moment de la possibilité d'avoir la double nationalité en France, et notamment, je pense, aux préfectures, qui, à l'ensemble des ressortissants du Maghreb, ont posé le fait que s'ils conservaient leur nationalité d'origine, ou s'ils demandaient plutôt la nationalité française, ils perdraient la nationalité d'origine. Donc on a eu aussi toute une politique assez trouble de l'État français via les autorités déconcentrées pour entre guillemets, empêcher le maintien d'une double nationalité. Voilà, règlement.
Merci. Donc des questions très délicates qui ont été posées. La loi nationale commune et la question de la succession des Tunisiens. Bon, l'idée fondamentale du droit international privé, c'est que malheureusement, nous n'avons pas encore un droit commun international privé. Donc, ce sont des droits qui régissent les situations. Il y a le droit tunisien et il y a le droit français. Ils ne sont pas régis de la même manière. Chaque système régit ses nationaux et les rapports internationaux selon sa propre vision. Et le tout est une question d'efficacité des décisions par la suite. C'est-à-dire que je peux obtenir une décision tunisienne comme je peux obtenir une décision française et qui ne sont pas nécessairement convergentes. Donc tout dépend, est-ce que je vais saisir le juge tunisien ou le juge français? Et parfois, ils se déclarent les deux compétents. Bon, il y a des techniques de droit international privé qui permettent de coordonner les compétences, par exemple, il y a le fait que si on consacre une coordination, on admet que si on saisit le premier, le juge tunisien, le juge français ne doit pas se prononcer, ou le contraire. Mais ces techniques de coordination n'existent pas toujours. Donc, du point de vue du droit tunisien, quelle est la situation d'une succession d'un Tunisien qui a vécu pendant longtemps en France? Il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, cette succession peut être réglée selon le droit français, les juges français, le Tunisien ne s'oppose pas. C'est-à-dire que si on apporte à la Tunisie une décision française et qu'on demande d'exécuter, le juge tunisien, normalement, va l'exécuter. Parce que la compétence du système français est considérée comme une compétence possible, comme aussi la compétence des juridictions tunisiennes est considérée comme possible. Et on distingue ici deux sortes de compétences des juridictions. Il y a les compétences possibles, c'est-à-dire que je peux être compétent, mais comme un pays étranger peut être compétent, donc je reconnais ces décisions. Il y a des cas où on considère que c'est une compétence exclusive, lorsqu'il s'agit de questions de souveraineté. Or là, il n'y a pas de problème de souveraineté, même s'il y a un débat sur les immeubles lorsqu'ils se trouvent en Tunisie. Est-ce que c'est un cas de compétence possible ou est-ce que c'est un cas de compétence exclusive ? Et les juridictions tunisiennes, il y a des décisions encore contradictoires en la matière. Donc, on peut reconnaître ce qui a été décidé par le juge dans le cadre du système français. Maintenant, si on veut saisir le juge tunisien, d'abord, il faut savoir sur quelle base le juge tunisien va être saisi. Il y a deux bases de saisine qui sont envisagées. C'est notamment le fait, d'après le code tunisien de droit international privé, lorsque la succession est ouverte en Tunisie, donc les tribunaux tunisiens connaissent, d'après l'article 6, de l'action relative à une succession ouverte en Tunisie ou à une dévolution successorale de biens meubles ou immeubles situés en Tunisie. C'est un des articles qui a posé le plus de problèmes aux tribunaux tunisiens pour comprendre le sens de cet article. Et je ne vous cache pas qu'il y a aujourd'hui une commission qui va modifier le code, et parmi les textes qu'on va modifier, je fais partie de cette commission, c'est précisément cet article 6, parce qu'il a posé des problèmes en jurisprudence. Mais la tendance générale, c'est de dire que la succession est ouverte en Tunisie lorsque le dernier domicile du décujus est en Tunisie. Ce n'est pas une question de nationalité, même s'il y a certaines juridictions qui disent que lorsqu'il y a un Tunisien qui est décédé, on considère que la succession est ouverte en Tunisie, mais là c'est une conception inexacte. Deuxièmement, il y a une compétence lorsque cette personne possède des biens meubles ou immeubles en Tunisie. Maintenant, le problème qui s'est posé devant les juridictions, je peux posséder une maison en Tunisie, mais je possède par ailleurs 10 maisons en France et en Europe. Est-ce que les juridictions tunisiennes seront compétentes uniquement pour la maison qui existe en Tunisie ou est-ce qu'elle sera compétente pour tous mes biens ? Là, il y a deux conceptions. Il y a la conception territorialiste, il y a la conception universaliste. D'après la conception territorialiste, les juridictions sont compétentes uniquement dans le pays où les biens existent. D'après la conception universaliste, il y a une conception universelle. Du moment que la succession est ouverte, on est compétent pour le patrimoine de la personne de manière générale. Et le problème, c'est que les décisions tunisiennes sont contradictoires jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de jurisprudence unifiée. On trouve les deux tendances. C'est ce qui explique que c'est un des textes qui doivent être modifiés. Quoique, sur le plan de l'efficacité, si je vais être compétent en tant que tribunal tunisien pour des biens qui se situent en France, encore faut-il que mes décisions vont être exécutées en France. D'abord, il y a des difficultés, il y a des expertises, etc. Comment je vais les régler ? Ce n'est pas évident. Mais ensuite, à supposer que j'obtienne une décision, est-ce qu'elle sera exécutée ? Il faudra obtenir l'exéquature. Donc souvent, même pour les décisions qui se sont prononcées pour une compétence universelle, leur efficacité était limitée aux biens qui se situent en Tunisie. C'est ce qui explique qu'une partie importante de la doctrine tunisienne considère que la conception territorialiste est une conception plus opportune et plus réaliste. Et il vaut mieux, dès le début, se prononcer uniquement pour les biens en Tunisie que de se prononcer de manière universelle et prononcer des décisions qui ne vont pas avoir d'effet. Donc là, c'est en ce qui concerne les juridictions compétentes. En ce qui concerne le droit applicable, c'est un texte aussi qui pose beaucoup de problèmes. L'article 54. Je vais vous lire cet article. J'ai travaillé sur ces questions et maintenant j'appartiens à la commission qui va modifier ces textes. Et je ne vous cache pas que tout le monde est d'accord sur le fait que ces textes doivent être modifiés, mais tous ne sont pas d'accord sur comment les modifier. Donc il y a encore un débat sur ces points. L'article 54 dispose « La succession est soumise à la loi interne de l'État dont le décugus a la nationalité au moment du décès. Donc, supposons qu'un Tunisien est décédé, ou à la loi de l'État de son dernier domicile, ou à la loi de l'État dans lequel il a laissé des biens. Ce texte pose des problèmes d'interprétation énormes, parce que en disant « ou », c'est une alternativité. Une alternativité, est-ce que c'est le juge qui va choisir? Et là, nous avons deux sortes de décisions et de doctrines. Il y a une partie de la doctrine qui dit « oui, c'est le juge qui va choisir entre ces trois lois ». Mais là, c'est une porte ouverte à l'arbitraire. C'est une porte ouverte à l'arbitraire parce que les résultats de la succession n'est pas le même. Prenons un exemple d'un Tunisien qui est domicilié en France. Si sa succession va être demandée en Tunisie, si c'est le droit tunisien qui va être appliqué, s'il a des fils et des filles, il y aura une répartition des parts successorales de part et part. Si on va appliquer le droit français, c'est le principe égalitaire. Donc je ne peux pas laisser au juge un choix sur une base arbitraire. Il y a une deuxième partie de la jurisprudence qui dit que le « ou » a été utilisé à mauvais, de manière inexacte. Et il ne s'agit pas d'alternativité, il s'agit d'étage, je dirais, de droit applicable. Donc, on applique la loi de la nationalité. Si on n'arrive pas à prouver la nationalité ou s'il n'a pas de nationalité, etc., ce n'est que dans ce cas qu'on revient à la loi du domicile. Si on n'arrive pas à prouver la loi du domicile, on revient à la loi de l'État dans lequel il a laissé des biens. Il y a même une analyse d'un collègue qui était mon professeur, qui a fait partie du jury de ma thèse et qui enseignait pendant la dernière période en France. Je ne sais pas si vous le connaissez, M. Ali Mezrani.
Si, bien sûr.
Ali Mezrani.
Oui,
voilà. Et qui a écrit un article sur ce point pour expliquer que le « ou » en arabe a la signification, pas le « ou », mais le « sinon ». Donc on applique tel critère, sinon tel autre critère. Bon, on peut discuter. On peut discuter de ces questions. Donc voilà.
Les filles du mariage aussi. Quand un mariage avait été conclu en France dans le cadre du régime de la communauté, par exemple, c'est impossible de lui appliquer pour les biens situés en France la loi musulmane.
Non, c'est pas en droit tunisien, c'est le droit. Voilà, c'est ça la nuance. C'est qu'en droit tunisien, il y a toujours l'inégalité, mais ce n'est pas la loi musulmane qui s'applique. C'est le droit tunisien qui s'applique.
Est-ce que le père peut établir l'égalité par testament?
Est-ce que le père peut établir l'égalité?
Parce qu'en France, on peut établir l'inégalité.
Oui, oui.
Aussi, attention,
oui, oui.
Hein.
Est-ce que
bon. Dans une certaine mesure, oui. Oui. Ça peut aller loin la mesure.
Là aussi, c'est une question très délicate.
Est-ce qu'un père qui dit « je veux faire hériter mes filles »
En réalité, ce qu'on fait en Tunisie et dans presque, dans, en tout cas dans les familles que je connais, c'est que le père de son vivant
des donations.
Fait certaines donations pour réaliser sinon une égalité, un certain équilibre. Et personne ne peut contester cela. Je connais beaucoup de gens où il y a eu ça. Mais s'il fait un legs, c'est-à-dire que s'il ne le fait pas pendant sa vie, est-ce qu'il peut faire un legs qui rétablisse l'équilibre? Monsieur Feu Mohamed Chafi, professeur Mohamed Chafi, que vous connaissez, a défendu cette thèse, mais ça suppose une modification des textes en Tunisie, parce qu'on ne peut pas faire de legs au profit d'un de ses héritiers.
Ah,
on ne peut faire de legs en droit tunisien qu'au profit d'un tiers. On suppose que ces héritiers
sont automatiques.
Voilà, sont automatiques et la quote-part qu'ils vont avoir est une quote-part d'ordre public. Voilà. C'est un peu l'idée de réserve héréditaire qui existe en France, mais les réserves héréditaires, c'est plus délicat, il y a plus de souplesse. Tandis que dans le code du statut personnel, voilà les parts qui ont été décidées, il ne peut pas y avoir de modification. Mais indirectement, au moment. De sa vie, il réalise des donations, etc.
Personne. Ça, c'est intéressant à étudier comme phénomène social.
Et c'est un phénomène.
Est-ce que les pères rétablissent l'équilibre de l'héritage dans leur pratique sociale?
Je vais vous dire.
C'est comme parce que nous avons embêté avec ce truc de la polygamie, sachant qu'elle était une pratique sociale disparaissait complètement.
Ouais.
Mais là, on aurait un cas aussi sociologique qui serait intéressant.
Sur le plan sociologique.
Et même dans les milieux populaires, parce que là, on prend les grandes familles, mais si on prend les milieux populaires, est-ce que les pères
rétablissent? C'est un peu plus difficile. dans les milieux populaires parce qu'il y a toujours la notion de religion, etc. Mais pour souvent pas beaucoup de choses à partager. Mais dans les milieux intellectuels et chez les modernistes en tout cas, il y a des modernistes. Je connais certains modernistes, des collègues par exemple, etc. Souvent, ils ne veulent pas enfreindre la règle religieuse, mais de leur vivant, ils les réalisent indirectement.
Même Ranouchi l'a fait si pour ses filles.
Voilà, peut-être, oui.
Super.
Indirectement, on le fait. Moi, je connais des cas très proches où j'ai vu que pendant la vie, il fait des donations en prenant en considération le fait que demain, il y aura une inégalité successorale. Ce qui réalise, pas nécessairement une égalité parfaite, mais du moins un équilibre certain entre les... les élites.
Mais, pardon d'interrompre. Tout à l'heure, tu as parlé justement des conflits de valeurs.
Oui.
En invoquant l'argument d'ordre public qui pourrait aller à l'encontre de la règle de la nationalité. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, en matière de succession, ou est-ce que tu aurais un exemple comme ça où un tribunal tunisien n'appliquerait pas, du coup, la loi tunisienne
Non, pas la loi tunisienne. Un juge ne peut pas opposer l'exception d'ordre public à sa loi. L'idée fondamentale des conflits de loi, c'est de dire qu'un juge peut appliquer une loi étrangère. Et peut appliquer une loi étrangère sur la base d'un critère de rattachement abstrait qui est choisi au préalable. Par exemple, en disant qu'en matière de divorce, j'applique la loi nationale. Or, je peux me trouver face à une loi nationale qui est choquante pour le juge. Par exemple, on a toute une jurisprudence en Tunisie qui évince la loi saoudienne. Alors que la loi saoudienne se dit le droit musulman. Parce qu'elle admet la répudiation. D'autres décisions, parce que la loi saoudienne ne donne pas à l'épouse la possibilité de demander le divorce. Qu'on appelle le divorce caprice, c'est-à-dire qu'elle ne peut demander le divorce que suite à un préjudice. Mais elle ne peut pas venir, l'épouse tunisienne, et dire « Bon, il ne m'a rien fait, je n'ai pas subi de préjudice, mais je ne veux plus continuer la vie comme... » On considère que c'est un droit qui appartient à la... Voilà, qui appartient à la personne. Là, on a évincé le droit saoudien. On a évincé le droit maltais, par exemple, parce qu'il exigeait une période de séparation de corps. Avant le divorce, on a considéré que le droit au divorce est un droit d'ordre public, qu'on ne peut pas exiger une période de séparation de corps. Il y avait aussi le droit... italien en ce sens. Donc la question s'est posée. Et en droit international privé, évidemment, lorsque je vais appliquer une loi nationale étrangère pour un juge, je vais avoir une confrontation de valeurs. Je peux accepter une marge de différence, mais lorsque ça devient choquant, le mécanisme de l'ordre public permet au juge d'évincer le droit désigné comme applicable et de revenir à sa propre...
Oui, et la France fera de même dans...
Et la France fait de même. La France, par exemple, a évincé dans beaucoup de cas la loi marocaine. Même la loi tunisienne. Dans certains cas, par rapport à l'inégalité successorale, par exemple. Parce que même en France, on applique la loi nationale, même si les juges français seront compétents. Mais souvent, les tribunaux français considèrent que l'inégalité successorale est contraire aux valeurs fondamentales de la France et à l'égalité. Et par conséquent, elle évince la loi tunisienne ou la loi marocaine et revient vers l'application de la loi française, par le biais souvent de l'ordre public.
Voilà. Par rapport à ta question, en droit français, ça revient à un problème. La possession de nationalité n'est pas interdite. Donc, après, est-ce que des pratiques de préfet, tu veux dire au moment des enquêtes de naturalisation ? Alors, au moment des enquêtes de naturalisation, il faut savoir qu'en France, un acteur essentiel, c'est effectivement les enquêtes des renseignements généraux. Là, qu'il y ait des pratiques visant à suspecter un deuxième passeport et donc à dire si vous avez un deuxième passeport, en gros, c'est pas légal, on va donc donner un avis défavorable, c'est des pratiques totalement illégales jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'il y ait des pratiques qui vont dans ce sens à mettre en balance le fait d'avoir un deuxième passeport étranger comme raison de ne pas avoir la nationalité française, oui, je pense que ça doit exister. Il y a une thèse de Abdelali Ajad, je pense que tu connais, sur ça, qui est un sociologue qui a travaillé sur la question de la nationalité, et notamment sur des gens qui pouvaient poser problème en raison de leur appartenance à une association religieuse, musulmane, etc. Bon. En revanche, la question que je me pose, et là je vais profiter qu'il y a un juriste pour là, Et un vieux prof nous disait souvent, avoir deux passeports, c'est pas avoir deux nationalités. Bon, moi, la question que je me pose, est-ce que il y a des binationalités qui sont consignées sur le même document ? Je suis français et tunisien en même temps, par exemple, sur mon passeport. Est-ce que ça existe, des cas comme ça ? Parce que ça, c'est la question que tu poses. Mmh. En France, ce que disait ce vieux prof, c'est qu'en fait, quand tu es en Tunisie, tu as ton passeport tunisien. Quand tu es en France, tu as ton passeport français. Tu vois, tu joues. Bon. Après, la France ne va jamais te poursuivre. Tu ne vas pas te faire arrêter en dessous de chez toi parce que tu as un passeport tunisien dans ton armoire. Bon, donc, il n'y a pas une criminalisation de le fait d'avoir deux passeports. Ça peut arriver, attention, hein, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses dans les prochaines années.
C'est une question de responsabilité et de droit applicable. Parce qu'il y a aussi une doctrine qui dit que tant que tu es sur le sol national, tu es ressortissant de la nationalité française, ce qui est naturalisé, etc. Dès que tu quittes le sol national, tu commets un acte répréhensible.
Bah, malheureusement, c'est toi qu'on doit gérer.
Tu vas être considéré comme un ressortissant tunisien. Et donc, tu fais l'extension de la... Voilà.
Moi, je ne suis pas juriste, mais par exemple, c'est posé un problème, qui n'est pas du tout un problème public, hein, je vous rassure. On a une jeune collègue française, totalement française, d'origine turque, qui vient d'être nommée chercheuse, donc chargée de mission affaires étrangères, à Istanbul. Donc c'est une ancienne de mon master, et puis elle me dit, Vincent, je reçois des mails des affaires étrangères tous les jours, m'obligeant à rentrer en Turquie avec mon passeport turc. Elle m'a dit, je n'ai jamais eu de passeport turc. Je suis française d'origine turque, je suis un enfant de l'immigration, et elle m'a montré les mails, je les ai sur copie, hein, des affaires étrangères françaises qui disaient, vous devez rentrer avec votre passeport turc. Je n'ai pas envie de rentrer avec mon passeport turc, j'en ai pas déjà, il faudrait que j'aille au consulat. C'est-à-dire que c'est la France qui allait jouer de sa nationalité d'origine, soi-disant, parce qu'elle aurait pu dire que je suis d'origine turque ou arménienne, j'ai plus de passeport turc depuis. Elle n'était pas arménienne en l'occurrence, mais bon. Donc là, on voit bien que même en France, ce n'est pas réglé cette histoire. Donc ça, il y a eu longtemps qui a été pratiqué, ça je l'ai vécu.
C'est des affaires étrangères avec les pays, j'imagine.
Oui, mais en même temps, je veux dire qu'on sait très bien qu'on est dans des rapports de force qui ne sont pas diplomatiques, mais qui sont de l'ordre administratif cette fois. On ne va pas obliger quelqu'un à prendre un passeport turc alors qu'il n'a jamais eu et qu'il est en plus fonctionnaire français des affaires étrangères. Bon, on voit les limites. Ce que tu dis est très vrai aussi sur un autre dispositif. Alors là, c'est beaucoup plus massif, ça c'est une anecdote. C'est tous les jeunes français, je les appelle français volontairement, qui en Tunisie se font prendre avec un gramme de hashish. Bon. Moi, j'en ai eu des tas de parents qui sont venus me voir, croyant que je pouvais avoir un pouvoir d'intervention que je n'avais pas. Leur enfant se fait choper, même pas parce qu'il a du hashish, mais parce qu'il est avec des gens qui fument du hashish. Là, la France ne les reconnaît plus comme français, c'est clair. Alors, là où il faut avouer qu'il y a quand même des aménagements, il y a une visite consulaire, le consulat les visite, on voit bien qu'il y a le droit, la pratique. Mais en tout cas, ils sont jugés en tant que Tunisiens. Ça, tu le sais beaucoup mieux que moi.
Oui, mais pour des franco-tunisiens en Tunisie. Mais par exemple, un franco-tunisien en Espagne, France ne va pas...
Très intéressant, la question que j'ai posée. Tu vois, très intéressant la question. Parce que, tu sais, je me suis vraiment posé cette question à travers des cas de personnes. C'est-à-dire que j'ai pas eu... C'est pas en tant que sociologue. J'ai dit, mais s'il n'est pas rentré avec son passeport tunisien, on m'a dit, rien à faire. C'est-à-dire qu'ils vont te rechercher ta nationalité tunisienne. Par exemple, les tribunaux tunisiens, jusqu'à quand il va te juger tunisien ? Moi, j'avais l'impression qu'il fallait quand même rentrer avec son passeport tunisien. Il fallait être enregistré au consulat de Tunisie, à Marseille, à Lyon, où tu veux. Pas du tout. C'est qu'on te recrée ta filiation tunisienne pour te condamner. Hein. Je veux dire que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va même te faire... Parce que aujourd'hui, tu as une attitude que l'on connaît tous dans nos entourages. Là, on ne va pas faire de la grande sociologie, même s'il faut se méfier de la proximité familiale, de la proximité amicale. Mais on sait très bien que beaucoup de nos proches rentrent aujourd'hui dans leur pays d'origine avec le passeport français et qu'ils ne veulent plus avoir un passeport tunisien, algérien, marocain. Ils ont renoncé de facto à leur papier d'un État étranger. Bon. Eh bien, malgré tout, les problèmes en termes de droit et de jugement, de condamnation, fait que ça ne sont pas résolus. C'est-à-dire qu'en Algérie, lorsque tu as un... Aujourd'hui, c'est beaucoup vrai pour les Français d'origine algérienne, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu un moment donné, il y a eu une sorte de rébellion due à l'extraordinaire complexité des consulats d'Algérie en France, que tu déposais tes papiers, on perdait ton passeport, on perdait tes papiers. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes Français d'origine algérienne ? On fait ça. Ben, moi, j'ai plus envie de... Je me rappelle, j'ai même une amie, la pauvre, allait chercher son passeport français. Il calait un bureau au consulat algérien. Allez vous faire voir, je suis française, je prends plus mon passeport algérien. Bon. C'est une réaction qui a été vécue des centaines de personnes. Et puis ils se sentent français, les gens, à un moment donné. Ils sont fiers de leurs origines algériennes, marocaines, tunisiennes, mais ils sont français. Bon. Et bien, malgré tout, dans des cas de procédure judiciaire classique, on les rattrape à la nationalité. Je ne sais pas comment quelle est cette notion. Oui, c'est ça qui est terrible. Mais comment on peut l'attester ? Tu n'es plus sur les registres consulaires. De la nationalité de tes parents.
Tu vois, comment vous pouvez attester que vous êtes français ?
Tes papiers de...
Pas uniquement les papiers. Il y a deux sortes de nationalité. La nationalité par la naissance. Oui. Lorsque votre père est français, vous êtes français.
D'accord, oui.
Donc, si leur père est tunisien, ils sont tunisiens.
On le reconstitue.
Non, c'est pas une reconstitution. Ils sont tunisiens. Oui. Juridiquement, c'est pas uniquement une
affaire. Mais si tu la rejettes, il faudrait que tu signes un papier.
Si on renonce
de manière volontaire, là,
mais ça existe cette
procédure. Ah bah nous, on peut le faire, par exemple, en Tunisie. On dit toujours que les Marocains ne peuvent pas renoncer à leur nationalité. En Tunisie, bon, il existe une procédure. Après, est-ce qu'il y a des demandes ? Est-ce qu'il y en a qui le font ?
Je n'ai pas vu de demande. On peut renoncer à la nationalité lorsqu'on a une autre nationalité, pas pour devenir apatride. C'est-à-dire que si on a la seule nationalité tunisienne, on ne peut pas renoncer. Là, c'est autre chose. Mais la nationalité, c'est une question très liée à la souveraineté. Mmh. Et chaque État réglemente sa nationalité indépendamment des États étrangers. C'est ce qui explique que du moment qu'il se trouve en Tunisie, du moment qu'une autorité tunisienne est compétente, elle n'accorde aucune importance à l'existence d'une nationalité étrangère.
Donc les milliers de jeunes qu'on a dans les prisons.
Voilà, c'est ce qui explique, par exemple, qu'en cas de binationalité, c'est ce que j'ai évoqué, lorsqu'il s'agit de binationalité étrangère, on applique la nationalité effective, mais si parmi les nationalités, il y a la nationalité tunisienne, pour le juge, il est tunisien. C'est la même règle qui existe en France, parce que la nationalité est très liée à la souveraineté.
C'est pour ça que je vous demandais la question de la nationalité tunisienne en Tunisie, parce que pour le coup, des étrangers qui obtiennent la nationalité tunisienne...
J'allais revenir, parce qu'il a pris la parole, Vincent, donc je ne voulais pas le couper, mais donc voilà, la nationalité est très liée à la souveraineté. D'ailleurs, la compétence, par exemple, pour dire qui est tunisien, pour dire s'il y a eu un retrait de la nationalité tunisienne, etc., c'est une compétence exclusive des juridictions tunisiennes. Et de même, c'est une compétence exclusive des juridictions françaises. Les juridictions françaises n'admettront pas qu'un tribunal tunisien décide que quelqu'un est français ou n'est pas français. De même que les juridictions tunisiennes n'admettront pas qu'un tribunal français décide si quelqu'un est tunisien ou n'est pas tunisien. Chaque État décide pour sa propre nationalité. C'est une question qui est la conséquence de la souveraineté. Nous avons un article, l'article 6, les tribunaux tunisiens, l'article 8, les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétences si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne. Donc, qu'il soit français, là c'est la France qui décide, mais pour la nationalité tunisienne, ça relève des autorités tunisiennes. Maintenant, pour l'exemple du hashish, ça pose...
Oui, parce que c'est le cas le plus fréquent.
Oui, ça pose un problème, même en Tunisie. Et d'ailleurs, il va y avoir une évolution de la législation tunisienne sur ce point pour condamner plutôt le trafic, etc., et la vente, et pas la consommation, surtout la première consommation. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il est tunisien qu'il a été condamné ? Là, il y a une discussion énorme. Entre même des étrangers qui peuvent être attrapés avec du hashish peuvent être condamnés. Parce qu'il y a deux sortes de compétences en droit pénal. Compétence par la nationalité et compétence par le fait de faire
un délit sur un territoire.
Un crime ou un délit sur un territoire.
Mais tu vois, pourquoi je te dis ça, en fait, ça renvoie aussi à sa question.
Oui.
C'est qu'après, c'est tout le dispositif d'assistance juridique.
Oui.
En gros, il est clair que les consulats te disent non, il est tunisien.
Il est pour la Tunisie. Ouais.
Mais je dois avouer, dans la pratique, les consulats mettent en place des dispositifs de médiation pour aller visiter ce qu'elles considèrent comme quand même des franco-tunisiens. Ils font ce qu'ils veulent, hein, si tu as un consul
MBC. Parce qu'il y a de bonnes relations aussi entre les autorités.
C'est un consul
qui les laisse. Mais s'ils n'ont pas de bonnes relations, il peut lui dire... Il est français. Il est d'abord tunisien. Pour moi, la nationalité...
Dans les affaires de terrorisme, ça compte.
Voilà, ça compte beaucoup.
Quand il y a eu les attentats de Marrakech, et qu'il y a eu en cause des Français d'origine algérienne, donc pas des Marocains, des attentats de Marrakech, il y a plusieurs années, hein, pas les derniers, Là, cette fois, c'est posé le problème, effectivement, de l'assistance juridique, parce que les affaires de terrorisme...
Voilà. Là, il y avait l'Algérie et il y avait la France qui pouvait...
Et la France
pouvait les deux faire. Revendiquer. Bon, ouais. Là, elle pouvait rien faire.
Et ce qui était dit... Voilà, elle pouvait rien faire, c'est ça que les... Donc là, on est aussi, comme tu dis, dans la souveraineté, dans le jeu politique. Hein.
Voilà. Et partout, c'est-à-dire que même en France, du moment qu'on a des États divisés, des États dans le monde, chaque État décide pour sa
nationalité. Oui, mais la France, à la limite, tu as raison, c'est qu'elle exclut, parce qu'en France, même le mec, les Français, on le remet à sa nationalité étrangère pour pouvoir l'expulser. Donc la France, elle agit même pire en période.
Voilà,
d'une certaine façon.
Là, ça devient
choquant. On le fait au début. Mais tout le débat sur la déchéance, voilà, c'était aussi voilà. Ça. Hein.
Là, ça devient choquant.
Elle n'est pas la seule. Le Maroc a fait la même chose depuis plus longtemps.
On te redonne la double peine. Bon, la double peine, c'est une chose. Parce que c'est des gens qui sont étrangers à papier de séjour. Mais ils étaient légalement présents sur le territoire au moment de la peine. On leur enlève leur statut légal. Et aujourd'hui, tout le débat qui a eu la déchéance qui a été lancé par François Hollande, c'était ça. Il ne s'agissait pas de défendre pour les terroristes ou contre ça. Tout le monde était d'accord.
Mais
c'est grave. Pourquoi, à un moment donné, c'est bien en tant que Français qu'ils ont commis cet acte, pourquoi on les ramène à une nationalité étrangère? Et le deuxième problème, ça veut dire qu'on les expulse vers des pays et qu'on suppose que c'est des pays qui doivent les prendre en charge alors qu'ils ont commis leurs actes sur le territoire français. Et
Mais là, c'est choquant parce que c'est une discrimination entre nationaux. C'est ce qui explique que la ministre de la Justice
a renoncé et a démissionné.
Parce que c'est une règle choquante, discriminatoire entre nationaux.
Qu'on a quand même failli passer très proche.
Voilà, la conception du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes nationalités. Chaque État décide pour sa nationalité. Et dans le monde entier, lorsqu'on est...
L'exécution extrajudiciaire, ça m'a frappé, que ce soit la fameuse exécution extrajudiciaire. Finalement, les Français se donnent le droit, entre guillemets, enfin le président, d'exécuter. Ce qui est amusant, c'est que Macron, dans un débat, a dit qu'il soutenait la position de Hollande là-dessus. Et c'était bien une exécution extrajudiciaire de nationaux français, ou binationaux.
Ça, c'est des barbouzes, hein. C'est des affaires de barbouzerie, là, j'ai envie de dire.
Quand le président de la République ou un candidat dit ça, c'est
grave. Donc, pour revenir à la...
Pour finir sur...
Voilà, à la question
très... On va devoir...
À la dernière question, et je dois aussi parler un peu de la
constitution
tunisienne qui l'a soulevée. Donc, pour la nationalité tunisienne. La nationalité tunisienne, nous avons des règles semblables aux règles... au droit de la nationalité français. Donc nous avons la nationalité tunisienne, l'attribution en raison de la natalité en Tunisie, c'est le jus sanguinis. Lorsqu'on est d'un Tunisien ou d'une Tunisienne, on est Tunisien. Et nous avons l'acquisition de la nationalité tunisienne de différentes manières. Il y a d'abord l'acquisition, on dit, par le bienfait de la loi. C'est précisément pour la femme étrangère qui épouse un Tunisien. On distingue deux hypothèses. La femme étrangère qui épouse un Tunisien, elle va acquérir la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsqu'en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger. Donc parfois, dans certains pays, lorsque une femme se marie avec un étranger, elle perd automatiquement sa nationalité. Pour qu'elle ne soit pas apatride, elle va acquérir automatiquement la nationalité tunisienne. En revanche, la femme étrangère qui épouse un Tunisien, par exemple la femme française, et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration si le ménage réside en Tunisie depuis au moins 2 ans. Donc il faut 2 ans et elle réclame, c'est comparable
à la France.
C'est
5 ans
maintenant.
Oui, 5 ans. Ouais.
Ouais. Donc là, c'est l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, et il y a l'acquisition par voie de naturalisation. Par voie de naturalisation, elle est accordée par décret et peut être naturalisée ou bien celui qui justifie une résidence habituelle en Tunisie pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande, et peut être naturalisé sans la condition de résidence l'individu qui justifie que sa nationalité d'origine était la nationalité tunisienne. Donc voilà un cas. Par exemple, il avait la nationalité d'origine tunisienne et il l'a perdue. Il veut la reprendre, il peut être naturalisé sans la condition de la résidence. 2, l'étranger marié à une Tunisienne, si le ménage réside en Tunisie lors du dépôt de la demande. Donc là, c'est l'étranger et pas l'étranger. Et il y a une différence. La femme, c'est automatique par le bienfait de la loi, tandis que là, la naturalisation, il y a un pouvoir d'appréciation.
qui au Liban n'est pas possible.
Voilà. Trois, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Tunisie.
Si on m'avait proposé, ça, j'ai pas accès.
Ou celui dont la naturalisation présente pour la Tunisie un intérêt exceptionnel. Ça s'est appliqué pour certains footballeurs.
D'accord.
Un intérêt exceptionnel.
Oui, on a proposé la révolution.
Oui. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Voilà, alors, un dernier mot peut-être sur la Constitution.
Voilà, sur la Constitution. Sur la Constitution, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier, oublier l'histoire. L'histoire a un poids très important. Ce qui explique qu'en 1959, au moment de l'adoption de la Constitution tunisienne en 1959, il y avait vraiment des conditions draconiennes pour avoir certaines fonctions, et notamment la fonction de président de la République. De la République, l'article 40 de la Constitution de 59...
Qui s'applique même, jusqu'à 2011.
Voilà. Et même au-delà, après la modification de 88 et de 2002. Dispose, peut se porter candidat à la présidence de la République tout Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne. Donc pas de binationalité. Mais ce n'est pas uniquement ça. De religion musulmane.
Ça, c'est resté.
Voilà. De père, de mère, de grand-père paternel et maternel tunisien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le jus sanguinis, il ne peut pas être... et en plaisantant en Tunisie, en disant que si Sarkozy était tunisien, il n'aurait jamais pu devenir président de la République. Parce qu'il faut avoir le père, le grand-père paternel, etc. Donc, de père, de mère, de grand-père paternel et maternel tunisien, demeurer tous de nationalité tunisienne, sans discontinuité. En outre, le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de 40 ans au moins, et de 75 ans au plus, et jouir de tous ses droits civils et politiques. Donc c'était un texte vraiment excessivement nationaliste, ce qui s'explique par l'idée de l'histoire. Il y avait une colonisation, il y avait une méfiance vis-à-vis des binationaux, et d'ailleurs, une des explications que le fils du président Bourguiba, Habib Bourguiba Junior, qui était quelqu'un de brillant et qui était avocat et qui était ministre des Affaires étrangères, n'a jamais prétendu au charge suprême, c'est que sa mère n'était pas tunisienne.
Mais elle était naturalisée.
Elle était naturalisée, mais pas d'origine...
Moufida.
Voilà, Moufida, parce que de père, de grand-père, etc. Donc, une des explications. Tandis que en 2014, on voit que ces conditions, il y a des conditions qui existent, on ne peut pas effacer totalement le passé, mais beaucoup plus édulcoré, si je peux utiliser le terme, puisqu'en 2014, l'article 74 dispose que la candidature au président de la République est un droit pour toute électrice ou électeur tunisien depuis la naissance, et dans la religion et l'islam, le candidat doit être âgé au jour du dépôt de sa candidature de 35 ans au minimum. S'il est titulaire d'une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il présente dans son dossier de candidature un engagement d'abandon de son autre nationalité au moment de sa proclamation président de la République. Donc s'il est élu, mais on ne trouve plus cette idée de père, de grand-père, paternel, maternel.
C'est-à-dire la religion qui est là.
Voilà. Oui, donc c'est un grand progrès, un énorme progrès.
Voilà. Un juif tunisien ne peut pas être président.
On exige la religion,
la religion
musulmane. Bon,
ça n'a pas été un grand débat.
Il n'y a pas eu un
petit débat, on va dire.
Voilà, il n'y a pas eu un grand débat.
L'exception se pose pour les juifs tubains. Si tu restes dans une exception, dans l'acceptation nationaliste, parce que tu peux.
Ouais. Et personnellement,
les Tunisiens sont autochtones.
Voilà, on aurait pu ne pas avoir cette disposition. Bah, bon, le fait est que 99% Mais on aurait pu ne pas l'avoir. Mais c'est vrai que ça existe encore dans la Constitution. Maintenant, pour les binationaux et les débats à la Chambre des députés qui s'expriment en langue nationale, etc., tout ce que vous avez dit est vrai, mais il ne faut pas amplifier ce phénomène.
Non,
pourquoi il ne faut pas amplifier ce phénomène? Parce que ça s'est passé avec un député...
Karima.
Avec Karima, mais avec un député populiste.
Oui, oui.
Avec un député populiste. Oui. Si je vais faire un raisonnement sur la base de ce...
Non, je suis d'accord.
Non, simplement pour
relativiser. C'était pas énorme, mais il y a eu quand même des controverses au-delà de ça.
C'est surtout ça.
C'est-à-dire que c'était pas tant... C'est aussi à la Chambre, mais tu as eu la controverse aussi sur le poids des binationaux dans les nouveaux gouvernements actuellement.
Oui, c'est toujours lui. Si vous revenez... Faites une étude de la question, vous allez trouver...
Mais il y a aussi des intellectuels comme Olfa Youssef et compagnie...
Oui, il y a eu une petite discussion, mais c'est surtout un député...
Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas amplifier.
Qui avait évoqué cette question, et c'était pour les Tunisiens plus du folklore qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'était même pas pris au sérieux. Il revient au débat, essaie toujours de voir qui a prononcé.
Oui, oui,
vous allez trouver que c'est toujours la même personne. C'est ce qui explique qu'il n'a pas été réélu au Parlement. On a plus ce débat aujourd'hui dans le Parlement.
Mais l'Algérie, par contre, a
beaucoup... Voilà.
Nous n'étions pas nombreux, mais nous étions bavards. Merci beaucoup. J'en profite pour rappeler la publication de notre ouvrage sur la plurinationalité en Méditerranée occidentale,
qui est accessible
gratuitement en ligne sur le site. On le trouve sur le site de l'IREMA, mais là, je n'ai pas l'adresse. Merci encore mille fois à vous deux.
Merci beaucoup.